Aujourd'hui, nous allons continuer dans l'étude de l'évangile de Luc. Nous arrivons au chapitre 8. Je vous invite à vous y tourner avec moi. Remercions le Seigneur et prions pour l'annonce de sa parole. Oui, Seigneur, merci parce que tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu d'éternité. Tu es le commencement et tu es la fin, Seigneur. En dehors de toi, rien n'a d'importance. Aide-nous à venir à toi, Seigneur, à la source. Merci pour ta parole, Seigneur, que tu nous as confiée. Merci aussi, Seigneur, que ton Esprit Saint a préparé nos cœurs à recevoir cette parole. Seigneur, notre prière aujourd'hui, c'est que Il continue son œuvre de façon miraculeuse et aussi par l'intermédiaire de cette parole qui attendrit nos cœurs, qui est comme de l'eau sur une terre desséchée, cette parole qui nous permet de comprendre ce que tu veux nous dire. C'est-à-dire, nous allons voir aujourd'hui que c'est un privilège que de pouvoir recevoir ta parole, de pouvoir la comprendre. Que si nous la rejetons trop souvent, il arrive un moment où nous ne pouvons plus même la recevoir, même si nous le voulions à ce moment-là. Seigneur, nous te supplions de garder nos cœurs toujours prêts à recevoir cette parole, qu'elle puisse produire tout son effet, Seigneur. Merci parce que tu l'as envoyé, comme le dit le prophète Ésaïe, Seigneur, et que, oui, cette parole, elle est riche, elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet, sans avoir exécuté ta volonté, avoir accompli avec succès ce que la raison pour laquelle tu l'as envoyée. Elle est comparable à la pluie, à la neige qui tombe des cieux et qui n'y retourne pas sans avoir, par l'humidité, par l'eau, arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous à la recevoir comme une manne bienfaisante, Seigneur. Garde nos cœurs d'être durs. Garde nos cœurs d'être superficiels. Garde nos cœurs d'être encombrés. Fais que nos cœurs soient cette bonne terre, ce bon terrain, où cette semence que tu nous donnes puisse produire 100 fois plus, Seigneur. Te le demandons dans le précieux, dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Luc, donc chapitre 8, verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, appelée Madeleine, de qui étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui les assistaient de leurs biens. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village. Nous avons déjà vu l'œuvre que Jésus accomplissait. Nous avons vu comment il était capable de guérir de la maladie, comment il était capable de ressusciter d'entre les morts le fils de la veuve de Naïn, comment il avait annoncé à Jean-Baptiste qu'il était bien le Messie que Jean-Baptiste attendait. Même si Jean-Baptiste n'était pas libéré, même si Jésus n'avait pas pris le pouvoir comme beaucoup de Juifs l'espéraient et l'attendaient. Nous Nous avons remarqué au passage qu'en fait, Jésus avait renvoyé les deux messagers de Jean-Baptiste, et c'est après seulement qu'il avait fait des compliments incroyables sur Jean-Baptiste. Des fois, je crois que Jésus se vante de nous sans que nous le sachions. C'est une bonne chose, parce qu'il ne voudrait surtout pas que nous prenions la grosse tête. Mais si nous vivons pour lui, il s'en réjouit. Nous savons que le problème de Job, c'est que Jésus se vantait de lui auprès de Satan. Et Satan avait dit, mais bien sûr, tu le bénis, laisse-le-moi un petit peu, puis tu vas voir, il va te maudire à ta face. Et donc, on voit aussi que Jésus pardonnait les péchés, par là il s'affirmait comme étant le Messie, comme étant Dieu lui-même. Et c'est bien la raison pour laquelle les pharisiens voulaient sa mort, ils pensaient qu'il blasphémait. Et donc on voit qu'il annonçait la bonne nouvelle, il faisait des miracles, mais ici il est dit qu'il allait de ville en ville, de village en village, il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La priorité du ministère de Jésus, ce n'était pas les miracles. Il avait la puissance de Dieu, comme nous l'avons en invoquant le Saint-Esprit. Mais sa mission, sa tâche essentielle, c'était d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous sommes dépositaires d'un trésor incroyable, l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Certains demandent pourquoi des fois on entend parler du royaume des cieux et du royaume de Dieu. Et il y a des commentateurs, des spécialistes, des théologiens affûtés qui font toutes des théories. J'aime bien ce que dit un pasteur qui est un ami commun de Mike et moi, Pat Lazovitch, il dit en fait, Luc, il parle du royaume de Dieu et Matthieu, il parle du royaume des cieux. Mais c'est la même chose. La seule différence, c'est l'évangéliste, c'est l'auteur de l'évangile. Donc ne cherchez pas midi à 14 heures, comme on dit, ne cherchez pas des choses très compliquées. Il annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, le fait que Jésus va instaurer son royaume. Où est le royaume de Dieu? C'est partout où Dieu règne. C'est simple comme définition. Et si nous venons à Jésus-Christ et nous recevons son pardon en réalisant qu'il est mort à ma place pour mes péchés, qu'il a versé son sang, qu'il est ressuscité d'entre les morts, signifiant que le sacrifice a été accepté par le Père, alors je suis au bénéfice de la vie qu'il vient me donner, de cette vie abondante, de cette vie éternelle. Quelque chose que nous avons chanté plusieurs fois, un Dieu d'éternité. Je suis surpris de voir la famille de Mike, aussi bien que celle de Seb et Eli. Il y a quelques années, ils auraient été que quatre ici. Mais par la grâce de Dieu, ils ont ramené 7 personnes ce matin à l'église. Le temps passe très vite. Et les pitchouns deviennent rapidement des adolescents, et puis des jeunes adultes, et puis ils s'en vont. Et puis nous, les adultes, on prend de l'âge. Et bientôt, on va dire au revoir à cette vie. Cette vie, elle est très brève, mes amis. Et on ne sait jamais combien elle peut être brève. On pourrait se faire ratatiner tous autant qu'on est par un tremblement de terre de 4 à 5 sur l'échelle de Richter. Et cette transitivité, cette vie si courte, cette rapidité, elle est à contraster avec l'éternité. Et le grand théologien Woody Allen disait que l'éternité, c'est très long, surtout vers la fin. ça dure et ça dure. Et même si on a passé 10 000 ans, on a parlé de 10 000 ans, c'est comme si un oiseau picorait un bloc de béton de 1 km d'arête et avait enlevé quelques grains de sable du béton. Il reste encore plein de temps et encore plein de temps. Et Jésus annonçait cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il allait de ville en ville. Puis j'ai bien aimé, il est dit qu'il allait de village en village. Quelque part, ça m'a interpellé parce que dans mon esprit, dans les Alpes-Maritimes, les gens qui vivent dans l'arrière-pays, ben c'est tant pis pour eux. S'il n'y a pas d'église, de grande église ou d'activité. Mais en fait, Dieu merci, il y a quelques personnes qui sont touchées aussi par les villages, même à Levain, s'ils ont besoin d'entendre la parole. Et Saint-Étienne de Tinée, Saorge, tous ces petits bleds, il y a aussi des âmes qui peut-être ont soif de Dieu. Et ça m'a d'autant plus repris que j'ai reçu un courrier il n'y a pas longtemps d'une personne qui a 83 ans, qui habite à Entrevaux, la ville de la forteresse de Vauban, en allant sur à Anotte, sur la route dans la vallée de la Tinée, et qui a envoyé une lettre à plusieurs églises à Nice en demandant si on ne pourrait pas venir faire un culte chez lui, faire une étude biblique une fois par mois, qu'il ne pouvait plus trop se déplacer et que ça lui ferait tellement de bien. Je ne lui avais pas encore répondu, je ne lui ai toujours pas répondu, mais en lisant ce verset, je sais que je dois lui répondre. On se dit, il faut aller dans les grandes villes, là où il y a plein de monde, mais ce qui compte, ce n'est pas là où il y a du monde, c'est là où il y a des personnes réceptives à l'Évangile. C'est vrai qu'on se dit statistiquement, plus il y a de monde, plus il y a de probabilité qu'on trouve des âmes, ce qui n'est probablement pas faux, mais Dieu ne néglige pas les petites choses. Et je me parle à moi-même, vous l'avez compris. Les 12 étaient avec lui, donc ça c'était les apôtres. On demande des fois quelle est la différence entre les disciples et les apôtres. Les disciples, c'est tous ceux qui écoutaient le message de Jésus et qui étaient touchés dans leur cœur et qui y adhéraient intellectuellement et qui le mettaient en pratique dans leur vie, qui commençaient à suivre pratiquement le message de Jésus. C'était des mathétès, des disciples. Un peu comme quand vous apprenez les maths, vous apprenez à les mettre en pratique. Si vous ne faites pas d'exercice en maths, je peux vous garantir que vous n'allez rien comprendre. Vous n'allez pas progresser. De la même façon, le disciple, il doit mettre en pratique la parole de Dieu. Sinon, il ne va pas progresser. Il ne va pas être dans des positions où il va voir la vérité de la parole. Il ne va pas pouvoir la comprendre plus profondément. Il ne va pas être capable de voir toute sa valeur. Les disciples, les apôtres, par contre, c'était ceux que Jésus avait choisis particulièrement. Il avait pris du temps pour les choisir. C'était eux avec qui il avait confié l'Église. Ils sont les fondations de la foi chrétienne. Il y avait plusieurs caractéristiques. Il fallait avoir été avec Jésus. Il fallait, pour avoir cette autorité apostolique, il fallait avoir vu le Christ ressuscité. Paul n'était pas à la croix, du moins que ce soit connu, mais on sait qu'il a vu Jésus-Christ. Il nous raconte dans Actes 9 et dans d'autres passages que Jésus lui a parlé, que sur le chemin de Damas, il a vu une lumière qui l'a fait tomber de son cheval, que Jésus lui a parlé. Et aussi, il fallait être accompagné d'actes miraculeux qui étaient une indication qu'il y avait cette autorité apostolique. Donc il y avait les 12 avec lui, et puis il y avait des femmes. Les femmes ont toujours eu une grande importance dans le ministère de Jésus-Christ, le ministère de l'Église. C'est intéressant qu'il n'avait pas choisi d'apôtresse. Est-ce qu'il était macho ? Oh oui, c'était un macho, un juif macho. Non, c'était dans l'ordre des choses. Dieu créa l'homme et la femme. Et ce n'est pas interchangeable. Ça aussi, c'est une des idolâtries de notre société. De penser que la justice passe par l'égalité absolue dans tous les domaines. Je suis désolé, mesdames et messieurs, nous sommes faits différemment, physiquement. Ah oui, mais on peut changer ça par une opération. Peut-être, mais c'est de la manipulation génétique ou chirurgicale, c'est pas la réalité. Et le christianisme a fait plus que toute autre religion, plus que tout autre mouvement, n'en déplaise à mesdames et mesdemoiselles les féministes, pour élever la condition de la femme. À l'époque de Jésus, et typiquement dans le monde antique, et aussi dans certaines sociétés de notre monde actuel, la femme est reléguée au rang de cheptel. On a 10 moutons, 3 chameaux, et une ou plusieurs femmes, si on est riche. Mais Jésus a dit qu'en Christ, il n'y avait plus, c'est Paul qui le disait, en Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, ni juif ni non-juif. Il n'y a plus d'homme ni de femme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme, mais il accueille l'homme comme il accueille la femme, avec des spécificités différentes, des rôles différents. Et là, ces femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais, de maladies, il cite plusieurs de ces femmes, Marie appelée Madeleine, ça veut dire qu'elle venait de Magdala. Certains disent que Marie Madeleine était une ancienne prostituée, parce qu'à Magdala, justement, c'était connu comme un endroit où se trouvaient souvent des prostituées, mais rien ne l'affirme de façon définitive. Peu importe, ce qui compte, c'est qu'elle avait été délivrée de 7 démons. Pas un, pas deux, mais 7. 7, c'est souvent le numéro, le chiffre de ce qui est complet dans la Bible. Donc elle avait été complètement délivrée de tous ces démons, de toutes ces idolâtries. Il y avait même des femmes qui étaient dans des positions politiques importantes. La femme Jeanne, la femme de Chouza, qui était l'intendant d'Hérode. Le roi Hérode, le tétrarque, qui avait le premier rôle après les Romains. Son intendant, sa femme, elle suivait Jésus. Jésus, ce n'est pas seulement pour les pauvres, les petites sœurs des pauvres. C'est très bien, Jésus a beaucoup de compassion pour les pauvres, mais il a de la compassion pour tous les pauvres, économiques ou pauvres en esprit. Un pauvre n'est un pauvre que s'il se reconnaît pauvre. Il y a des gens qui se refusent de recevoir des dons financiers. Il y a des gens qui refusent de recevoir l'aide de Dieu, de recevoir l'Évangile, parce qu'ils ne voient pas qu'ils sont pauvres. Nous sommes tous pauvres. Même Bill Gates est pauvre en esprit, même s'il est un des hommes les plus riches financièrement de la terre. Et ce qui est remarquable, il y avait aussi Suzanne, c'est que ces femmes soutenaient financièrement l'entreprise de Jésus et de ses apôtres. Ça devait être des femmes de Proverbe 30, du Proverbe 31 qui se levaient de bon matin, qui achetaient des champs, les vendaient. Mais toujours est-il que ces femmes étaient hautement respectées, hautement appréciées de Jésus et de ses apôtres et de tous les disciples. Et puis verset 4 commence une parabole. Jésus enseignait en parabole. Pas parce qu'ils avaient des récepteurs sur leur balcon. Le mot parabole, ça veut dire jeter parallèlement à quelque chose d'autre, jeter le long de quelque chose. Et une parabole, c'est plus qu'une illustration. Une illustration, ça veut dire il était fort comme un taureau. Mais là, on va voir ce que c'est qu'une parabole. C'est une histoire terrestre qui a une signification céleste. C'est une histoire que l'on comprend au premier degré et que si l'on est touché par l'Esprit de Dieu, on va comprendre au second degré, au degré, au niveau spirituel. Parabole. Parabole, c'est le mot qui nous a donné le mot de parole, d'ailleurs. La parole, ça vient de la parabole. Une grande foule s'assembla. Et des gens de diverses villes vinrent auprès de lui. Là encore, on peut avoir des préjugés en disant que tous les grands rassemblements chrétiens, c'est du bidon, c'est de l'excitation mutuelle. Jésus parle à l'individu, Jésus parle au petit groupe, Jésus parle à la foule aussi. Aujourd'hui, nous avons des orateurs qui sont particulièrement doués pour faire de l'évangélisation dans des stades, dans des grandes salles de concerts. Il n'y a rien de... Ce qui compte, encore une fois, on va le voir, c'est d'annoncer, c'est de parler aux gens de Jésus et du royaume de Dieu. Il va utiliser une illustration ou un thème qui était compréhensible à l'époque par tous les gens de cette société agraire, une société où l'agriculture avait beaucoup d'importance. Il n'y avait pas tellement d'informaticiens à l'époque. Sinon, il aurait peut-être parlé de disques durs, de copies, de crash, de... Et je vous invite, si vous voulez, à moderniser cette parabole et à l'actualiser en termes d'informatique. Ça, c'est votre devoir pour dimanche prochain. Et donc, on va lire ensemble. Verset 5. Le semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle poussa, elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans de la bonne terre. Quand elle poussa, elle donna du fruit au centuple. En disant cela, il s'écria, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende !» Arrêtons-nous là. Essayez de faire un petit effort. Probablement, pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà lu, entendu, étudié cette parabole. Et vous êtes au bénéfice de l'explication que Jésus en a donnée, qu'on va lire un peu plus loin. Cette parabole, on la retrouve dans les autres évangiles, qui Matthieu 13 et Marc 4. C'était quelque chose de fondamental, de très important dans le ministère de Jésus. C'est aussi un tournant de son ministère. À partir de ce moment, il ne va plus parler aux foules qu'en parabole. Essayez donc de comprendre cette parabole juste en écoutant Jésus qui dit « Il y a le semeur qui s'en va pour semer sa semence ». Il la sème, il marche, ça tombe le long du chemin, ça tombe sur le roc, ça tombe au milieu des épines, ça tombe dans la bonne terre. Peut-être que votre conclusion logique, ça serait Jésus donne des conseils aux agriculteurs de ne pas gaspiller les graines et de les faire tomber au bon endroit. C'est vrai ça, c'est vraiment stupide de jeter un quart de vos graines, de trois quarts de vos graines, 75% de les foutre en l'air, les ficher en l'air. Ça serait une bonne leçon et merci Jésus de nous rappeler qu'il faut, il faut être bon gestionnaire de nos ressources. Si vous avez déjà vu dans le prophète Ésaïe, des fois, on aimerait bien, on se dit, tiens, ça aurait été chouette d'être le prophète Ésaïe. D'avoir des paroles de Dieu à annoncer aux gens autour de nous. Mais c'était pas facile. Dans Ésaïe 6, si vous voulez vous y tourner, c'est page 674. C'est en l'an 740 avant Jésus-Christ, c'était l'année de la mort du roi Ozias. Et Ésaïe 6.1 nous dit « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. » Il s'ensuit une description du temple qui remplit le prophète de peur. Verset 5, « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Et puis il y a l'un des anges, des séraphins, qui vient avec lui, tenant une braise qui touche sa bouche pour la purifier. « Ta faute est enlevée, ton péché expié. » Verset 7. Puis verset 8, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il vient d'être touché par Dieu. Il voit que Dieu cherche quelqu'un et il a cette réponse spontanée. Il lui dit, « J'y vais. » Mais le Seigneur lui continue en lui dit, « Va, tu diras à ce peuple, écoutez toujours, mais ne comprenez rien. » Regardez toujours, mais n'en apprenez rien. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, n'entende de ses oreilles, ne comprenne avec son cœur, qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. Bizarre, non ? Dieu envoie un prophète en lui donnant pour charge de ne pas se faire comprendre, que le message de Dieu ne les touche pas, ne les guérisse pas. Et c'est ce qu'explique au verset 9 Jésus, parce que ses disciples ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ils ont peut-être pensé que l'histoire de sauvegarder 75% des graines, ce n'était pas la seule leçon que Jésus voulait leur donner. Et il donne leur langue au chat. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Et c'est là qu'il leur répond en citant justement le prophète Ésaïe, « Il vous a été de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. » Et puis là, il va leur expliquer la parabole, mais c'est remarquable que Jésus utilise ce procédé de la parabole qui n'est pas facile à interpréter sans l'aide du Saint-Esprit. Le pasteur Chuck Smith, qui est décédé l'an dernier et qui est à l'origine du mouvement de Calvary Chapel, qui est un grand enseignant de la Bible, je dis « il est » parce qu'on peut toujours écouter ses messages et en bénéficier grandement. Il disait qu'en fait, pour bien comprendre les paraboles, il fallait avoir enseigné la Bible pendant au moins 40 ans. Là, parce qu'on est fort de l'explication donnée par Jésus, on se dit « oh, vite, c'est facile, c'est pas difficile, donnez-moi une autre ». Comme un peu comme les devinettes que les enfants se posent, ou les knock-knock jokes en anglais. Pourquoi cet aspect incompréhensible des paraboles ? En fait, Jésus ne pourrait tous nous forcer à l'aimer, à dire qu'on l'aime. Il pourrait tous nous zapper quand on fait le moindre péché, un peu comme quand on peut faire ça avec des chiens. Il y a des fois, dans certains pays, je ne sais pas si c'est très développé en France, il y a des barrières électroniques. Il y a un fil qui est planté dans la terre, donc ça ne fait pas une barrière. Et l'animal porte un collier électronique, et dès qu'il franchit la ligne électrique, il y a un champ électrique qui active un petit courant électrique qui zappe le cou de la bête. Donc ils apprennent très vite que s'ils vont là-bas, donc ils n'y vont plus. S'ils vont par là, s'ils vont trop loin... Donc ils apprennent à vivre, et on peut imaginer que Dieu fasse la même chose avec nous. Mais Dieu veut une relation d'amour avec nous. Il veut que nous venions à lui parce que les bonnes choses, à cause des bonnes choses qu'il nous donne, en raison des bonnes choses qu'il nous donne, ni par peur des mauvaises choses, il veut que ce soit de l'amour. Vous pouvez mettre un pistolet derrière le dos d'une personne et lui dire « dis-moi que tu m'aimes, sinon je te descends. Je t'aime. » Ça ne va pas vous émouvoir beaucoup. De la même façon, Dieu veut que notre amour soit sincère. Il nous laisse la liberté du choix. Et dans ce choix, il arrive un moment où si nous refusons de l'aimer, il y a un moment de châtiment ou de qui fait que même si on voulait changer d'avis, on ne va plus pouvoir changer d'avis. C'est bizarre. Mais rassurez-vous, tant que vous avez envie de changer, il va vous laisser changer. C'est lui qui va, dans votre cœur, par l'Esprit Saint, vous amener à baisser le genou devant lui. Mais il s'adresse aux foules en parabole. D'abord, une bonne chose, c'est que les gens ne peuvent pas vous empêcher de parler parce qu'ils ne savent toujours pas où vous voulez en venir. Il y avait un semeur qui semait. Arrête ! Non, ils ne savent pas de quoi il va parler. Ils ne peuvent pas. Ils ne vont pas avoir le soutien des autres opposants pour dire oui, tais-toi. Parce que c'est qu'à la fin que tout se met en place et qu'on comprend qu'il y a une étincelle de compréhension. Et aussi, il veut bénir ceux qui veulent être bénis. Si vous refusez d'être bénis, si vous fermez votre cœur à Dieu, il ne va pas jeter des perles aux pourceaux, comme il est dit dans Matthieu. On dit « jeter de la confiture au cochon ». L'Évangile, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de beau. C'est un trésor dans des vases de terre. Quand nous sommes les vases de terre, l'Évangile en lui-même, c'est une chose merveilleuse. Et puis Jésus explique la parabole en leur donnant la clé. Et c'est la clé qu'on ne trouve pas toujours tout seul. Il faut l'aide du Saint-Esprit ou de Jésus, qui, par sa parole inspirée par le Saint-Esprit, nous donne la clé pour comprendre de quoi il retourne, de quoi il s'agit. La semence, ce n'est pas la graine que vous avez achetée chez Villemorin pour avoir des tulipes, c'est la parole de Dieu. Ah, c'est la parole de Dieu. Mais il n'est pas sûr qu'ils vont tout comprendre, même après avoir donné la clé. Donc il leur montre comment ouvrir la parabole avec cette clé. On appelle souvent cette parabole la parabole du semeur. En fait, ce n'est pas la parabole du semeur, même s'il y a un semeur dont il est question. C'est la parabole des sols, des terrains. Parce qu'il va distinguer quatre genres de terrains sur lesquels la parole de Dieu est semée. Verset 12, « Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole afin qu'ils ne croient pas et ne soient pas sauvés. » En Palestine, à l'époque, il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas de fil de fer barbelé, il n'y avait pas de fil électrique enterré. Il y avait juste des passages pour passer à pied, qui étaient des chemins. Ce n'était pas des autoroutes, ce n'était pas l'A8, c'était juste des petits chemins. Et lorsque le semeur, qui avait un sac rempli de graines, marchait le long de ces terrains, il plongeait sa main et jetait une poignée de graines autour de lui. Le geste auguste du semeur. Ça, c'est Victor Hugo dans l'histoire de Boaz. Le geste auguste du semeur. C'est intéressant parce que, en anglais, l'expression qui désigne ce geste ample de semer les graines. À l'origine, le vieux mot anglais, c'est « broadcast ». Et maintenant, ce mot de « broadcast », ça a été récupéré par les gens qui font de la radio ou de la télévision. C'est « émettre » des émissions, « broadcast ». Mais c'est toujours les mêmes idées, sans doute inspirées par ce passage biblique, de semer quelque chose, de semer une information, de donner. Et dans ce broadcast, dans ce geste ample et auguste du semeur, les graines tombent dans différents types de sols. Donc il y a ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole afin qu'ils ne croient pas et ne soient pas sauvés. Vous avez un ennemi, l'ennemi de vos âmes, c'est le diable. Le calomniateur, celui qui dit du mal de vous, c'est Satan. L'adversaire, c'est le serpent ancien dont il est question dans la Genèse, dans l'Apocalypse. Le diable vient et il enlève de votre cœur ses paroles. Dans d'autres passages, il est dit que ce sont les oiseaux. Et souvent les oiseaux, c'est le principe de continuité dans la Bible. Lorsqu'une image est associée à un thème, cette image, elle continue dans la Bible. Et les oiseaux, c'est souvent, dans ce sens-là, des ennemis de Dieu. C'est les oiseaux qui viennent et qui mangent ces graines. Ils sont envoyés par Satan. Ce sont toutes les doutes, les traits enflammés du malin qui vont faire que vous allez vous dire « Oh, c'est vrai, Pierre parle d'un Dieu qui nous aime et qui veut nous sauver pour l'éternité. » Mais les bouddhistes disent autre chose. Ils disent qu'on va mourir et puis qu'on va être ressuscité encore et on va revenir. Et puis peut-être qu'un jour, finalement, on arrivera à vivre comme il faut. Et à ce moment-là, on arrêtera les cycles. Et bonne chance. Les doutes, ils enlèvent de votre cœur la parole, pour vous empêcher de croire. La foi vient de ce qu'on entend, la parole, et la parole vient de Christ, la parole de Jésus-Christ ou la parole de Dieu, la parole de Christ ou la parole de Dieu, Romains 10:17. La foi, ce n'est pas quelque chose de magique dans lequel on tombe quand on est petit, comme la potion magique d'Astérix ou d'Obélix. La foi, c'est quelque chose que l'on cultive, que l'on peut enrichir, faire naître en ayant un cœur ouvert à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va fortifier votre foi, qui va faire que votre foi, elle va devenir de plus en plus forte. Et donc, le diable sait que s'il arrive à vous empêcher d'avoir un contact avec la parole de Dieu, vous êtes cuit. Vous dites, oui, mais moi je vais dans une église très charismatique, on ne lit pas la parole, on la connaît, on l'a lue quelquefois, mais on est dans les chants, on est dans les miracles, on est dans le charismatique. Très bien le charismatique, mais pas sans la parole de Dieu. Ta parole est la vérité. Jean 17, la prière de Jésus à son Père. Ceux qui demeurent dans la parole seront libres, vraiment. Jean 8, 30. Premier sol, le sol dur, endurci. Le bitume. Si vous avez des enfants ou si vous avez été à l'école du dimanche, vous savez qu'on vous donne des petits pois ou des lentilles. On les met dans du coton mouillé. Puis on mouille bien le coton pendant quelques jours et pof, il y a une petite plante qui commence à germer. Un germe d'abord, un petit truc vert qui commence à pousser, puis ça craque la graine. Puis ça pousse assez bien, c'est remarquable. Mais je peux vous garantir que si vous essayez de dire à vos enfants, mets la petite graine sur le bitume dehors, mets de l'eau, vos enfants vont être déçus. Les graines, la semence, c'est quelque chose de fantastique. Dans ces petites graines, il y a déjà tout l'ADN de l'être, de la plante qui peut pousser. On a replanté des graines vieilles de milliers d'années qui étaient conservées en bon état, qui n'avaient pas moisi ou pourri, dans des endroits secs, en Palestine notamment. Et ces graines, elles sont capables de redonner la vie. À l'intérieur de la graine, de la semence, il y a la vie. Et c'est très riche. C'est un thème qui revient dans la Bible. Nous sommes invités à mourir à nous-mêmes, comme une graine qui meurt et qui donne la vie. Mais cette semence de la parole, non seulement elle donne la vie, mais elle donne la vie éternelle. Encore une fois, cette graine, cette parole, elle est merveilleuse. Et puis il y a verset 13, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines, ils croient pour un temps, et au moment de l'épreuve, ils se retirent. C'est un peu comme le petit pois ou la graine de lentille dans le petit pot avec un peu de coton humide. Là, il n'est pas question d'espérer que la graine qui est tombée sur un galet commence à pousser, mais il est question du sol en Israël qui est souvent très rocailleux sous une petite couche de terre. Et cette petite terre, elle permet à la plante de commencer, à la graine de commencer à germer et à monter un peu, mais il n'y a pas de racine, elle n'est pas solide. Et dès qu'il y a des difficultés, notamment lorsque le soleil commence à taper dessus, elle va mourir. Elle sèche parce qu'elle n'a pas d'humidité. L'humidité, c'est aussi la parole de Dieu. La parole de Dieu est souvent comparée à de l'eau qui rafraîchit nos âmes. Et donc, si on plante, si on laisse tomber ces germes, ces blés, ces semences, pardon, j'y arrive, sur un sol rocheux qui est juste en surface un peu de terre, ça ne va pas aller loin. Et ça, c'est aussi pour nous, dans nos cœurs, dans nos vies. Si nous ne cultivons pas, c'est le prophète Osée, je crois, qui disait, ou Joël, qui disait, cassez vos sols rocailleux, vos break your fallow ground, cassez votre surface. Il faut la charrue, il faut briser la dureté de nos cœurs, de nos vies. Or, nous pouvons faire des bonnes choses, mais c'est souvent superficiel. On donne l'aumône, on donne un peu d'argent aux mendiants, parce que ça nous donne bonne conscience. Mais on ne se laisse pas toucher au plus profond de nous-mêmes. Et ceux-là, on va dire, ah ben ils ont reçu l'évangile, ça y est, c'est des chrétiens. Ils peuvent même s'être fait baptiser. Mais si ce n'est pas profond, si ce n'est pas cultivé quotidiennement, par l'étude de la parole, par la prière, par la fréquentation des saints, par l'Église, par les relations avec d'autres chrétiens, il arrive un coup dur et d'un seul coup, vous laissez tout tomber. Combien de personnes, vous et moi connaissant, qui ont eu des débuts très prometteurs, mais qui se sont laissés déraciner par les épreuves, parce qu'il n'y avait pas des racines profondes. Puis un autre type de sol, c'est ce qui est tombé, verset 14, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, après avoir entendu la parole, s'en vont, sont étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ne donnent pas de fruits mûrs. Vous avez tous vu des buissons de ronces. Vous êtes peut-être même tombé dans des buissons de ronces, ça fait mal. Ce qui est terrible, c'est que si votre graine tombe au milieu de ces ronces, elle ne va pas recevoir de soleil. Les ronces vont prendre tous les éléments nutritifs du sol. Elle ne va pas pouvoir voir la lumière du soleil. Elle va être étouffée. Et elle ne va pas pouvoir grandir et donner du fruit. Jésus précise ce que sont ces épines. Il y a les soucis. Les préoccupations. Comment faire pour élever mes enfants? Comment faire pour payer mes factures? Comment faire pour garder mon travail, pour en trouver un autre? Comment faire pour vivre? J'ai tellement de soucis, j'ai pas le temps de venir le dimanche matin à l'église. C'est triste parce que on a quelqu'un très proche d'ici qui vient régulièrement après le culte nous parler de tous ses soucis. Et j'essaye de l'inviter à venir avant la fin du culte pour qu'il puisse mettre ses soucis à leur place et les confier au Seigneur. Mais tous, nous pouvons être pris par des soucis, des lettres de relance. Il y en a qui aiment recevoir des lettres des impôts. Si vous êtes comme moi, soit vous les ouvrez tout de suite pour en finir vite, soit vous les mettez de côté, parce que vous ne voulez pas vous gâcher la journée. Les soucis, c'est une réalité, mais ce que Jésus nous dit, c'est qu'on ne doit pas se laisser étouffer par les soucis. Puis une autre sujet d'étouffement, ce sont les richesses. Moi, si j'avais de l'argent, des richesses, je me sentirais beaucoup mieux dans ma peau. Ça serait facile. Ah, j'aimerais bien être Bill Gates. Moi, c'est pas sûr. Parce que quand on a 10 millions, on en veut un 11e, et ainsi de suite. On demandait à Rockefeller combien de millions de dollars lui suffisait. Il a dit un de plus. On a toujours besoin de plus. Et puis la richesse, il faut la gérer. C'est une source de soucis. On revient au premier épine. Et puis il y a les plaisirs de la vie, les bonnes choses de la vie. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement des choses de péché. Jacques nous dit dans Jacques 1, 17 que toutes les bonnes choses viennent de Dieu, du Seigneur des Lumières en qui il n'y a ni ombre, ni variation, ni changement, ni ombre de variation. Mais encore une fois, on peut devenir idolâtre et ces plaisirs peuvent devenir notre souci principal. Les soucis, trop d'argent, les plaisirs. J'ai pas le temps de venir au culte le dimanche parce que je pars faire une longue randonnée où j'ai un nouveau bateau que je veux essayer et c'est le meilleur moment le dimanche matin. Je vise personne, hein, ne cherchez pas d'allusion précise, j'essaie juste de venir. C'est curieux parce que ces choses qui devraient nous faire du bien, Satan essaye de les retourner contre nous. Et c'est ce que fait Satan. Il se dit, si je ne peux pas les éloigner des bontés de Dieu, je vais faire que ces bénédictions deviennent des idoles dans leur vie. Et ce qui devrait nous faire tourner vers Dieu, on devrait dire, merci Seigneur pour cette belle journée, merci pour les vacances que tu m'accordes, merci pour l'argent que tu me permets d'avoir pour faire face à mes dépenses. On en veut plus. Cultive la publicité est là pour nous dire, mais c'est vrai que cet iPhone, bientôt il va y avoir l'iPhone 6. Je vais avoir l'air de quoi avec mon iPhone 3S. Toujours plus. Et ça étouffe la parole. Nous sommes accaparés, nous ne pouvons pas méditer sur la parole, nous n'avons plus le temps de la méditer, nous n'avons plus le temps de la laisser nous transformer. Et puis, ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur bon et honnête, la retiennent et portent du fruit par la persévérance. Verset 8, il disait, cette graine tombée dans la bonne terre, elle va donner du fruit au centuple. En Israël, je lisais qu'une récolte qui était 7 à 10 fois plus, donnait plus de grains que le grain qui avait été semé. On trouvait que c'était quelque chose d'absolument merveilleux. Et c'est vrai que si on avait des taux d'intérêt comme ça, je vous encouragerais à mettre votre argent dans cette banque. En attendant, le 1er août, le taux d'intérêt du livret A est passé à 1%. Waouh ! On va devenir riche, mes amis. Mais on ne veut pas devenir riche parce qu'on sait que ça va nous préoccuper, que ça va étouffer la parole. Mais là, ce n'est pas 7 ou 10 fois plus. C'est, dans d'autres évangiles, c'est 30 ou 60 fois. Là, c'est 100%. Ce fruit peut être multiplié par 100. La parole que vous recevez dans votre cœur, si c'est de la bonne terre, un cœur bon et honnête, ça va donner un merveilleux fruit. Rapidement, verset 16, la parabole de la lampe, parce que c'est toujours dans la même idée de l'importance de la parole, de donner la parole. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un objet ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. La parole que vous avez reçue qui éclaire votre vie, elle doit être visible par les autres. Car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit venir au grand jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il pense avoir. Là encore, toujours cet aspect judiciaire un peu. Si vous donnez, si vous avez quelque chose, Dieu va vous donner davantage de compréhension de sa parole. Il va vous faire briller. Est-ce que vous brillez pour le Seigneur avec sa parole? Est-ce que vous l'avez reçue et elle a trouvé un bon sol? Est-ce que vous avez porté du fruit? Est-ce que vous brillez? Et puis verset 19, la mère et les frères de Jésus se présentèrent, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On l'en informa, ta mère et tes frères sont en dehors et veulent te voir. Il pensait qu'il était un peu dérangé. C'est pas facile d'avoir le Dieu comme frère ou sœur. Pour ceux de vous qui avez des frères ou des frères, oui, et qu'on vous dit c'est le Messie. David, c'est le Messie? Pas possible, on le connaît trop bien. Est-ce que Ben, c'est le Messie? Pas question. C'était pas facile pour eux, ils se disent il faut qu'on l'arrête avant qu'il aille trop loin. Donc ils veulent le voir, ils veulent l'arrêter. Mais il y a tellement de personnes qui écoutent Jésus. Encore une fois, parmi toute cette foule, il y a tous ces terrains. Il n'y en a qu'un quart au mieux qui va recevoir le fruit dans une bonne terre. Plutôt la semence dans une bonne terre, elle va pouvoir donner du fruit. Mais il leur répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Si vous avez laissé la parole, si vous avez reçu la parole et qu'elle vous a transformé, vous faites partie de la famille. C'est une façon de savoir si vous êtes un bon terrain, pas un terrain endurci, un terrain superficiel ou un terrain encombré, mais une bonne terre, c'est si vous portez du fruit. Porter du fruit, ça veut dire avoir une influence pour l'Évangile, une influence pour le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire que vous êtes nécessairement un évangéliste qui fait venir à lui des centaines de personnes ou un pasteur qui enseigne la parole. Porter du fruit, c'est voir des bonnes choses faites au nom de Dieu dans votre vie. Est-ce que vous portez du fruit? Est-ce que vous brillez? Mais surtout, est-ce que vous faites partie de la famille? Ça, c'est le test. L'Esprit Saint dit à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Ça ne se démontre pas. Une dernière leçon, parce que Jésus nous dit de mettre la parole de Dieu en pratique, c'est une leçon sur l'évangélisation. On a dit que il n'était pas tellement question du semeur. Sauf qu'il, verset 5, il sortait pour semer sa semence. C'est tout ce qui est dit sur le semeur. On ne nous dit pas qu'il avait fait des hautes études d'évangélisation, qu'il avait fait des grands séminaires, qu'il avait maîtrisé toutes les techniques de communication, qu'il avait une voix de stentor, je crois qu'on dit en latin, une voix, puissante. Oh, oh, oh. Non, il semait la parole. Il semait simplement la parole. Il n'avait pas des techniques incroyables, mais il était fidèle. Et nous sommes tous appelés à semer la parole en parlant de notre expérience personnelle, en donnant notre témoignage. Souvent, nous sommes déçus quand nous faisons d'évangélisation, entre guillemets, suivant ce que ça représente pour vous. Certains vont être vraiment avoir un fardeau pour ça, d'autres ont ce don d'évangélisation, il y en a parmi nous, on est reconnaissant pour eux. D'autres le font de temps en temps, si on les pousse un peu. Poussez pas, oui, vas-y, parle. Et quand on voit qu'il n'y a pas de résultat, on se dit, mais c'est parce que j'ai besoin d'étudier davantage. Je ne connais pas assez bien la Bible. Je vais faire ce cours d'évangélisation. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas indispensable. Tout ce qui compte, c'est que vous sortiez pour semer. Parce qu'en fin de compte, la responsabilité du rejet ou de l'acceptation de cette parole, elle vient d'où ? Est-ce qu'elle vient du semeur et de ses talents ou de son manque de talent ? Est-ce qu'elle vient de ses techniques de communication ? Non, tout ça, ça dépend du terrain. Ça dépend du sol. Vous pouvez prêcher tout ce que vous voulez en connaissant le grec, l'hébreu, le chinois, l'araméen, tout ce que vous voulez. Vous pouvez avoir fait des longues études, des techniques d'évangélisation en plein air. Si le sol est dur, si les gens refusent de croire à Dieu, vous ne pourrez pas les faire changer d'avis. C'est le sol qui va déterminer la réception. Si vous prêchez et que les gens répondent rapidement, vous dites ça y est, c'est merveilleux, mais vous voyez en fait que ça ne dure pas. Ce n'est pas parce que vous avez mal présenté l'Évangile. C'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de bonne terre. C'était superficiel. La prochaine fois, vous voyez qu'ils vont dans des réunions avec les témoins de Jéhovah. Quelqu'un est passé et oh, la dernière personne qui parle a raison. Vous pouvez prêcher de tout votre cœur, évangéliser, mais si les gens sont pris par les soucis, les richesses, la recherche du plaisir, ça ne va pas donner de fruits. Alors vous me dites, mais alors, comment on sait ? Ben, le problème, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas à l'avance. Et à l'époque, c'est intéressant, on semait d'abord la graine et ensuite on faisait passer la charrue. Et c'est là qu'on voyait qu'en fait, il y avait des ronces, la graine était tombée sur du mauvais sol. Au-dessous, il n'y avait pas beaucoup de terre, il y avait du rocher, on abîmait le socle de la charrue. Et puis il y avait un autre endroit où alors là, c'était comme du beurre, ça rentrait bien. Et donc pour nous tous, ce qui compte, c'est pas nos techniques, parce que la puissance, elle n'est pas dans le semeur, la puissance, elle est dans la graine, l'évangile. l'évangile que nous devons présenter du mieux que nous pouvons, sans nous soucier, parce que le semeur, là, tout ce qu'il faisait, c'était de lancer. Vous pouvez faire ça avec des traités. Allez demander à nos amis, ils vous donneront des traités que vous pouvez laisser derrière vous. Vous allez au restaurant, vous laissez un traité avec un pourboire. Ils vont faire un réflexe de Pavlov. Évangile, bénédiction. Bénédiction, évangile. Bon pourboire, évangile. Non, je plaisante, mais juste un peu. Ce qui compte, c'est de faire comme le semeur, dont il est très peu question. Ce n'est pas lui l'important. Mais nous tous, nous sommes appelés à semer. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour sa pertinence. Merci pour tes dons de communication, Seigneur. Par ton Esprit Saint, tu peux toucher nos cœurs. Tu peux aller nous retourner, nous toucher au plus profond. Donne-nous de persévérer dans l'annonce de ta parole, Seigneur. Ce n'est pas nous qui sommes formidables, c'est toi qui es merveilleux. C'est ton plan de salut, c'est l'évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, par la foi, qui est la grande nouvelle, Seigneur, qui est merveilleuse et qui est susceptible de donner du fruit tel que nous ne pouvons pas l'imaginer. Seigneur, aide-nous à persévérer sans nous décourager. Je te prie d'encourager tous ceux qui ont l'habitude de le faire, Seigneur, et de donner soif aux autres de s'y essayer, Seigneur. Tu as donné un don d'évangélisation à certains, Seigneur, mais tu nous appelles tous à faire le travail d'un évangéliste, Seigneur, à broadcaster, à émettre, à faire savoir, à ne pas cacher, mais à faire briller et savoir que tu as un peuple dans cette ville et dans ces villages, Seigneur, qui sont de la famille, Seigneur, que nous devons aller chercher. Amen.